France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France est consacrée ce soir à la France des bonnes idées, pertinentes et pas chères, des trucs qui marchent, initiés par les communes, grandes ou petites, pour mieux vivre ensemble. Deux hommes ont traversé la France. Ça a duré près de 10 mois, un peu plus, pour aller à la recherche des astuces locales qui marchent et qui sont duplicables, par exemple pour ne pas gâcher l'eau, ou pour sécuriser des axes routiers, ou bien encore pour véhiculer des habitants isolés. Toutes ces initiatives, elles sont regroupées désormais au sein de la Fédération française des trucs qui marchent. Elles ont aussi donné un livre intitulé « Fédération française des trucs qui marchent », une façon donc de revoir notre façon de penser la citoyenneté et de mettre en œuvre ce qui peut nous rapprocher dans une ville ou un village. On se demandera aussi d'un point de vue plus cognitif, comment naît une idée? D'où viennent les bonnes idées? Eh bien, vous verrez que ça ne vient pas tout seul, car il faut savoir faire travailler notre cerveau contre notre propre paresse. Voici une semaine en France. Bienvenue.
Éric Delvaux, le 18-20.
La France des trucs qui marchent donc ce soir, les idées qui séduisent et qui se concrétisent dans les communes. Vous y avez contribué, Quentin Brière, monsieur le maire de Saint-Dizier. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors votre truc à vous, ça a été de rendre moins laid les panneaux publicitaires dans les rues de Saint-Dizier et autour, sur le thème « La beauté sauvera le monde ». C'est le nom d'ailleurs de l'association qui porte cette idée. Vous avez donc remplacé la pub par la culture. Expliquez-nous ça.
Oui, c'est une initiative qui est née pendant le confinement. On était tous un peu déprimés au moment du Covid et on s'est dit, mais comment on peut faire pour que finalement il y ait comme des brèches de lumière qui se fassent dans le quotidien des gens, des choses positives. Et l'idée est venue en voyant ces panneaux publicitaires qui sont assez moches hein, et qui sont faits pour vendre, et en se disant, mais et si ces panneaux, pendant 3 semaines à un moment de l'année, du jour au lendemain, soudain, ils affichent des œuvres d'art avec cette phrase écrite « La beauté sauvera le monde ». Donc on l'a fait en 2021 et depuis ça a progressé et on est maintenant 90 communes à le faire partout en France, toujours au même moment. Et ce soir, c'est le dernier soir où les panneaux publicitaires sont couverts d'œuvres d'art.
À chaque année son thème, quel thème d'ailleurs cette année?
Cette année, c'est le paysage. C'est magnifique, ça permet de parler de toute la France et c'est la réunion des musées nationaux et le Grand Palais qui nous présélectionne les œuvres. Il nous envoie 150 œuvres selon le thème. Et puis nous, les communes, les partenaires, on va puiser dedans, on va piocher celles qui nous plaisent et on les affiche partout où bon nous semble. Parce que vous pouvez mettre ça sur des panneaux publicitaires, mais il y en a qui mettent ça sur des vitrines de commerce qui sont vides, d'autres sur des grandes façades de monuments. Enfin, c'est assez sympa et chacun y va à sa façon. Selon ses moyens.
Le thème des paysages cette année, en peinture, il doit y avoir pas mal d'impressionnistes.
Il y a pas mal d'impressionnistes, mais pas que. Il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site, parce qu'il y a, ça permet, vous voyez, il y a du Hokusai, par exemple, parce qu'à un moment, il y a la grande vague d'Hokusai, mais il y en a d'autres. Enfin, on peut se laisser un peu surprendre, et c'est souvent très coloré et très sympa.
Installer des reproductions d'œuvres d'art dans les panneaux publicitaires, notamment, rappelez-nous comment est financée cette opération. Ça coûte combien et à qui?
Donc en fait, c'est des communes qui participent. Elles réservent leurs panneaux publicitaires. Souvent, une commune, elle est propriétaire de ces panneaux, en fait. Donc ça lui permet de réserver du temps publicitaire sur les panneaux-là gratuitement. Après, elle finance, elle doit payer l'affiche, quoi. La pose, la dépose de l'affiche. Et si jamais c'est des grands panneaux qui lui appartiennent pas, elle les réserve. Donc c'est ça qui a un petit coût. Et l'autre petit coût qu'il y a en plus, c'est 56 euros. Par droit d'auteur, enfin par pub, enfin par œuvre d'art, vous payez une fois 56 euros et l'œuvre vous la dupliquez 10 fois si ça vous chante. Donc c'est pas très cher et ça c'est le Grand Palais qui nous le propose. Mais pour vous donner un ordre d'idée, nous on est une commune de 23 000 habitants, Saint-Dizier dans l'est de la France. On met une cinquantaine de panneaux, le tout ça nous coûte 9 000 euros.
Finalement c'est une façon d'ouvrir la culture pour tous dans les espaces publics donc.
Oui, c'est une manière de dire, on a tous droit au meilleur et à ce qu'il y a de plus beau qu'il y a dans nos musées. Vous savez, la réunion des musées nationaux, c'est vraiment les grands musées nationaux. Et donc, ils vont chercher dans leur fond, mais des œuvres qu'on connaît pas, en fait, hein, pour un grand nombre d'entre elles. Et c'est ça qui crée un peu de magie, parce qu'on va sortir ces œuvres et les mettre dehors pour que tout le monde en profite.
Et quel retour, d'ailleurs, avez-vous eu des bragards, les habitants de Saint-Dizier?
Bah, les braguards, ils sont très contents pour deux raisons. D'abord, parce que ça leur permet de découvrir ces œuvres. Et il y en a qui, moi, je croise régulièrement des groupes, des personnes un peu plus âgées en général. Elles mettent les baskets, les bâtons de marche et elles font comme une randonnée urbaine qui leur permet d'aller découvrir les différentes œuvres.
Mmh. Ouais. Et combien de villes se sont finalement emparées de votre idée? Et d'ailleurs, est-ce que certaines se sont appropriées cette idée de façon un petit peu différente ou c'est chaque fois le même concept?
Alors on a une charte graphique, on respecte tous le même concept. Il faut mettre la beauté sauvera le monde, cette phrase qui à mon avis change tout. Elle est un peu audacieuse, mais moi c'est ça que j'adore, ça qui me plaît et qu'a dit Dostoïevski. Mmh. Après vous mettez le nom de l'œuvre et puis vous mettez ça sur vos grands panneaux. Il y a 88 communes qui le font, 32 qui le font en direct. Donc c'est le maire qui décide d'aller avec son conseil, c'est parti, on va en mettre partout où on le peut, de La Montjoie, une petite commune de 565 habitants à Aubervilliers, 91 000 habitants. Et puis les autres, c'est pas des communes qui le font en direct, c'est des partenaires. Par exemple, Bouygues Bâtiments France, eux, ils ont amené 37 chantiers sur lesquels ils ont mis des œuvres. Quoi. Vous voyez, mmh. Un chantier, c'est pas très beau, un échafaudage, c'est pas très beau, et donc
et
ça vous permet d'avoir
tout ça beaucoup plus beau.
Exactement.
Vous avez été parmi les premières villes à être repérées par la Fédération des Trucs qui Marchent. Comment avez-vous appréhendé leur démarche? On va recevoir l'un des cofondateurs dans un instant.
Ben moi, j'ai adoré la démarche, parce que le nom est assez marrant. La Fédération Française des Trucs qui Marchent. Et ce que j'adore, c'est une conviction que j'ai par ailleurs, et donc on s'est tout de suite retrouvé là-dessus avec Raphaël Reger, c'est on est convaincus ensemble que du national, il n'y a plus grand-chose qui peut arriver de vraiment puissant pour transformer le pays en ce moment, malheureusement. Mais les maires, si un maire peut modifier sa ville, peut la transformer, peut l'aider, 1000 maires peuvent transformer le pays. Il suffit qu'il y ait des bonnes idées qui soient duplicables et qui ne nécessitent pas de changement réglementaire. Et si vous n'êtes pas seul à le faire, mais bah, comme cette année 90 à mettre des œuvres d'art partout, là vous avez un impact. Et c'est ça le truc qui marche à la FFTM.
Merci beaucoup monsieur le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, et on invite donc les passantes et les passants à profiter de ces reproductions de tableaux de maîtres dans l'espace public de Saint-Dizier. C'est jusqu'à ce soir seulement, je crois que c'était dimanche.
Alors ça peut même aller jusqu'à dimanche, mais même si vous allez 22 rue Royale, il y a Groupama Immobilier qui a mis une bâche, une voile de chantier de 150 mètres carrés avec une œuvre de Gilbert Victor Gabriel qui s'appelle La Demoiselle. Cette œuvre, elle fait quelques centimètres de haut en vrai. Elle est dans un musée à Bayeux que personne ne connaît. Et là, vous la voyez en immense pendant plusieurs mois.
Et il ne faut pas s'en priver. Merci beaucoup, monsieur le maire. La France,
merci
des trucs qui marchent. Deux hommes, donc, ont décidé d'en faire une fédération. Et puis un livre paru chez Buchet-Chastel, ça s'appelle « La Fédération française des trucs qui marchent », que vous avez cofondé puis coécrit il y a 3 ans, Théo Caviezel. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Avec votre collègue, donc, Raphaël Ruéger, vous avez donc sillonné la France durant 10 mois à la recherche de ce type d'initiative locale dans les communes. La bonne idée censée améliorer la vie quotidienne des Français. Quels sont d'ailleurs les critères pour obtenir ce label de la Fédération française des trucs qui marchent?
Il y a 3 critères très simples. Ça doit être porté à l'échelon communal par un élu local. Ça doit déjà avoir fait ses preuves. Ça doit marcher concrètement. Et puis, comme Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier que je salue, l'a dit, ça doit être duplicable. Ça doit pouvoir essaimer partout en France.
Sur les 4 ou 5 000 communes visitées au départ, combien de bonnes idées avez-vous recensées?
On en a recensé 70 dans un ouvrage publié aux éditions Buchet-Chastel.
On en vient d'en faire la promo, mais explique-nous quel type d'idée qu'on ait un peu un panel.
Alors, la beauté sauvera le monde, on vient de vous la présenter. Le passeport du civisme, né à Talmont-Saint-Hilaire, les jeunes de CM1, CM2, qui tout au long de l'année tamponnent non pas des pays, mais des actions civiques sur 8 principes, l'écologie, l'environnement, le patrimoine, les relations intergénérationnelles, le devoir de mémoire.
Alors, on a remarqué, à la fois dans votre livre et aussi sur le site, toutes ces initiatives, des trucs qui marchent, elles sont répertoriées par secteur. Hein. Pour se nourrir, pour se loger, pour bouger, pour aménager, même pour mourir, il y a une dizaine de chapitres. Dans quel secteur avez-vous trouvé le plus d'idées pertinentes ?
Je dirais dans la plupart des thématiques qui sont chères aux Français aujourd'hui, c'est par exemple la santé, évidemment, on en parle beaucoup, c'est l'accès au logement, c'est l'adaptation climatique, c'est le bien vivre ensemble et le bien vieillir aussi. Voilà les plus grandes thématiques.
S'adapter à la vie climatique, c'est l'actualité, on le verra dans les journaux ce soir. Et quand une commune manque d'eau et que l'arrosage est interdit, à Niort, j'ai relevé cette idée pour permettre d'arroser les espaces verts à moindre coût, vous l'avez en tête?
Exactement, le maire de Niort qui a fait des gros travaux dans l'hôtel de ville. À partir du moment où on creuse à Niort, on essaye de mettre en souterrain des stockages d'eau.
les stockages d'eau qui viennent des piscines privées. Il faut aller puiser, tout simplement. Et après, il faut enlever un peu de chlore et un peu de produits chimiques. Et on en profite pour arroser les espaces verts. C'est ça, la France, des trucs qui marchent, des idées simples, peu coûteuses et efficaces. La France aurait donc des atouts qui ne sont pas suffisamment explorés.
Oui, parce que ces élus locaux, en fait, ils n'ont pas de caisse de résonance. Ils sont les deux mains dans le cambouis, tous les jours, dans leur commune. Ils font des trucs qui marchent, ils s'en rendent parfois même pas compte, parce que d'une idée à une autre, d'un problème à un autre, ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au contact de leurs habitants, avec tous les problèmes que ça implique. Et donc nous, on vient leur dire bravo, merci, continuez, et vous êtes une vraie source d'inspiration pour tout le pays.
C'est aussi une façon d'inciter chacun dans sa commune à faire preuve d'imagination et aussi d'initiative, vous l'avez repéré. Ça, toutes ces initiatives et ça reposait souvent sur une, deux, trois personnes.
Oui, bien sûr, mais le but de ce livre, et c'est pour ça qu'on a un nom aussi très grand public, et vous donniez le nom de nos chapitres, on aurait pu faire des thématiques un petit peu protocolaires, techniques. Ce sont des mots-clés, vivre, mourir, embellir, émerveiller, parce qu'on parle à tous les Français, on ne parle pas qu'aux élus. Parce que certes, il y a les élus aujourd'hui, mais il y a demain les futurs candidats, et on dit aux Français, engagez-vous, engagez-vous.
Après 4 années de périple à travers la France, dans les communes, maintenant que vous avez amorcé la pompe, comment est-ce que vous allez poursuivre cette recherche des trucs qui marchent dans les communes ?
Ah ben alors, il y a 35 000 communes en France, on en a visité 400 pour le moment, donc vous voyez que
vous
ça marche.
Vous êtes reparti pour un tour ?
Ah bien sûr, bien sûr. Chaque année, on part sur les routes de France, et chaque année, la veille au soir du Salon des maires, on restitue, on montre, on met en avant 6 initiatives qu'on a détectées lors du précédent Tour de France. C'est ce qu'on fera encore l'année prochaine.
Mais vous êtes parti 10 mois, vous allez repartir 10 mois ?
Exactement, chaque année depuis 4 ans.
Bon, très bien. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de préciser dans votre livre que vous ne rouliez pour personne, pour aucune chapelle ? C'est un reproche qu'on a pu vous faire parfois ?
Non, alors on roule pour personne ou pour tout le monde. En fait, une bonne idée, elle doit se partager, elle doit se diffuser, elle ne doit pas rester cloisonnée. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ce livre est à disposition de tout citoyen.
Il y a de bonnes idées, donc à droite comme à gauche, dans cette France, des trucs qui marchent.
Oui, c'est même pas le sujet. En fait, on en parle presque jamais avec les élus locaux.
Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. C'est parce qu'on sent bien que ce sont des idées de circuit court, et ça rapproche de l'écologie, ça rapproche un peu de la gauche. On a pu vous le reprocher, ça, parfois ?
Très peu, non, très peu. C'est vraiment quelque chose. Il y a la politique nationale, certes, mais il y a la politique locale qui est différente. Et 95% des maires qu'on rencontre, je ne saurais même pas deviner leur étiquette.
Quelques idées simples, j'en ai encore. Une initiative contre les zones blanches, ces territoires privés de réseau, et donc de mails, de SMS ou de télétravail, ou même de télémédecine. Eh bien, dans les Alpes, dans les Alpes-Maritimes, quelqu'un a eu l'idée de monter un pylône, faut nous raconter ça.
Oui, exactement. Breil-sur-Roya, ils ont malheureusement eu affaire au dérèglement climatique et Totem, qui est une entreprise partenaire de la FFTM, nous a conviés à l'installation d'un pylône. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été installé dans des conditions difficiles, escarpées, et qui mutualise l'ensemble des opérateurs sur un seul pylône.
Les opérateurs qui font chacun leur business ont dit OK pour le même pylône.
Exactement. Bon, en fait. À Ouessant, à Breil-sur-Roya et demain encore ailleurs, parce que ça se duplique.
Encore une idée pour les cantines scolaires, les circuits courts. C'est possible.
Exactement. Au Mont-Sartou, Gilles Perrol, l'adjoint au maire qui est monté sur scène au Cirque d'hiver Bouglione lundi soir, qui nous a présenté sa ferme municipale. 4 agents communaux qui sont des agriculteurs et qui cultivent 25 tonnes de légumes par an pour les enfants.
Vous avez parlé du Cirque Bouglione à Paris, parce que chaque année, vous organisez une soirée à Paris avec tous les maires de communes concernées, tous ces maires qui font des trucs qui marchent. C'est toujours avant le congrès des maires de France. Comment les maires de France regardent-ils votre initiative ?
Alors, avec de plus en plus d'intérêt, on était à guichet fermé cette année. On avait plus d'un tiers d'élus dans la salle. Et ensuite, effectivement, ça nous lance pour le Salon des maires. Et on est très bien accueillis sur ces 3 jours de Salon des maires. Ça fait très plaisir.
Vous avez eu du mal, dites-vous, à convaincre les maires de France. Pour quelles raisons ? Ils vous ont regardé de quelle façon au départ ?
Bah, c'est normal, on arrive. Bonjour, monsieur le maire. Je suis la Fédération française des trucs qui marchent et je souhaite venir vous voir. Et ben, la première année, c'est bip bip. Et puis, ça raccroche. Et maintenant, ce sont eux qui nous qui nous contacte et on est très content.
C'est une affaire qui marche. Merci beaucoup Théo Caviezel. Je
Merci
rappelle donc le titre de votre livre coécrit avec Raphaël Ruiger. Ça s'appelle Fédération des trucs qui marchent, le Tour de France des trucs qui nous rapprochent. Et c'est donc paru chez Buchet Chastel. Merci beaucoup et bonne soirée. Qu'est-ce qu'une bonne idée en général et d'où viennent-elles? On va continuer d'en parler jusqu'à 19h. Vous écoutez Une semaine en France. Voici David Walters sur Inter. Ses doigts, le multi-instrumentiste David Walters avec son dernier titre Santico. C'était le choix de Djoubaka. Vous écoutez Une semaine en France, à la réalisation Juliette Gou, Corinne Boulou, rédactrice en chef, et un grand merci aussi à Benjamin Ducy qui m'a largement aidé à préparer ce numéro.
France Inter, le 18-20.
Je vous l'ai dit, c'est le thème ce soir d'Une semaine en France. D'où viennent les bonnes idées? C'est aussi le titre d'un livre paru il y a quelques années chez Diateino. Et vous en êtes l'autrice, Juliette Brun. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur diplômée des mines, ingénieure polytechnicienne. Vous travaillez dans la recherche et l'innovation chez L'Oréal. Trouver une bonne idée, le thème de votre livre. Ça ne vient pas comme ça. Hein. Encore faut-il bien réfléchir et lutter contre ce qu'on appelle sa propre paresse créative. Ça se passe donc dans notre cerveau. C'est quoi la paresse créative?
Alors, malheureusement, pour notre cerveau, il est plus facile d'avoir des idées assez classiques que des bonnes idées, des idées très originales. Pourquoi? C'est parce qu'on est victime d'un phénomène qui s'appelle la fixation créative. Si on vous demande par exemple comment faire tomber un œuf sans le casser et qu'on vous met au défi de trouver les idées les plus créatives possibles pour qu'il ne se casse pas, tout le monde pense aux mêmes choses. Amortir la chute de l'œuf avec un coussin, fabriquer un parachute, on reste fixé sur des idées plutôt classiques. Or, les bonnes idées, elles arrivent quand on sort du cadre, quand on regarde ailleurs et qu'on se demande des choses un peu bizarres comme « et si on congelait l'œuf ?» et pourquoi pas changer la pesanteur.
Dit comme ça, effectivement, on comprend mieux. On a entendu dans l'émission que de bonnes idées ont été réalisées parce qu'elles étaient comme une évidence sous nos yeux. Par exemple, le recyclage des eaux des piscines privées pour économiser les arrosages publics. Et donc, vous nous expliquez, et c'est dans votre livre aussi, qu'il faut au contraire se méfier des évidences quand on cherche une idée. Vous l'évoquiez un petit peu, cette défixation. Pourquoi vaut-il mieux se défixer donc, quand on cherche une bonne idée ? Vous l'avez un peu abordé.
Les chercheurs ont montré que quand on est en brainstorming et qu'on cherche une idée nouvelle, il y a à peu près 80% des idées qui nous viennent qui sont plutôt des idées classiques, familières, des choses que notre cerveau connaît bien. Et c'est pas si facile que ça de faire émerger du nouveau. C'est pour ça que c'est assez important d'être attentif à ce qui peut être vraiment original et à la capter, comme vous en avez parlé tout à l'heure, des idées qui sortent de l'ordinaire.
La créativité, donc, avant toute chose, avant même de savoir si l'idée sera réalisable, toujours mettre la créativité avant sa faisabilité.
Pas forcément, parce qu'une bonne idée, c'est une idée qui est nouvelle, originale, mais il y a deux autres critères pour la définir. C'est une idée qui va être utile à la société, et aussi applicable. On peut la mettre en œuvre, elle n'est pas trop chère, elle n'est pas trop complexe.
Je reviens sur le hasard. La découverte de la pénicilline, elle ne s'est pas faite par hasard ou par chance. Ça, c'est une idée reçue.
Alors, on parle souvent de bonnes idées qui arrivent comme des éclairs de génie, un peu par hasard. Mais les bonnes idées, elles n'arrivent pas totalement par hasard. Le hasard peut mettre quelque chose sous nos yeux, mais c'est nous qui devons avoir l'attention nécessaire pour le remarquer. Donc là, dans le cas de la pénicilline, on avait un chercheur qui était parti en vacances. Entre-temps, ses boîtes de pétri avaient moisi. Il revient, mais au lieu de jeter ses boîtes de pétri, il a la sagacité de voir que ça peut être intéressant parce qu'autour de la moisissure, les bactéries avaient disparu. Donc là, il s'est dit, tiens, j'ai peut-être inventé quelque chose de nouveau.
Idem pour le Eureka, j'ai trouvé, quand Archimède identifie ce qu'on a appelé la poussée qui porte son nom, il trouve d'abord ça parce qu'il y a surtout longtemps réfléchi.
Oui, c'est ça. C'est un peu un alignement de planètes qui arrive quand tout est enfin à la bonne place.
Cela dit, trouver ce que l'on ne cherche pas, ça existe aussi, et vous y revenez dans votre livre, à travers le concept de sérendipité, qui désigne donc le fait de découvrir par sagacité et un peu par hasard. Ce que l'on ne cherche pas, ça tient à quoi ?
Oui, alors la sérendipité, c'est ça, c'est quand on cherche quelque chose et que par hasard, on tombe sur mieux. Par exemple, l'inventeur du post-it, il cherchait une colle extra forte et il a obtenu exactement l'inverse, une colle qui colle à peine. Donc, beaucoup d'inventeurs auraient jeté cette colle, mais lui il s'est dit, tiens, ça pourrait servir de pense-bête que je colle et que je décolle à loisir. Donc là, le hasard aide, il y a quelque chose qui arrive qui n'aurait pas dû arriver, mais la bonne idée, elle naît surtout parce qu'on a l'œil pour transformer un accident en opportunité.
Juliette Brun, vous restez encore avec nous, j'ai encore 2-3 questions à vous poser, le temps de me tourner vers Corinne Audouin. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Eric.
Face à une actualité envahissante, souvent anxiogène, eh bien, on s'intéresse ce soir à la manière dont les médias tentent avec plus ou moins de succès de parler des trucs qui marchent.
Oui, on part de très loin Eric, vous connaissez peut-être ce vieil adage de la presse anglo-saxonne, « If it bleeds, it leads », s'il y a du sang, ça fait la une, attribuée au patron de presse américain William Hearst dans les années 1890, car les informations négatives captent beaucoup plus l'attention que les trains qui arrivent à l'heure, un fonctionnement du cerveau qu'explique sur France Culture le mathématicien David Chavalarias.
On a plusieurs biais cognitifs, notamment un biais qui s'appelle le biais de négativité, qui fait que quand on a deux informations, l'une à valence plutôt positive, l'autre plutôt négative, on va être avant tout attiré par les contenus à valeur négative. C'est-à-dire qu'on aimerait comprendre pourquoi il y a un danger, en fait, si vous voulez. Donc quand vous êtes exposé à ce deux types d'informations, vous allez plutôt être attiré vers ce qui potentiellement contient un danger.
Ce biais négatif n'est pas sans conséquence. Être exposé aux infos à haute dose peut générer de l'angoisse, du pessimisme, du stress. Alors face à cette fatigue informationnelle qui peut éloigner évidemment les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, et bien les médias traditionnels se mettent doucement à l'information positive et réconfortante. Alors on peut citer les newsletters du Monde, le Feel Good, vous apprécierez le jeu de mots, ou de Libération, ça va mieux en le lisant. Il y a une rubrique Initiative positive sur le site de TF1. Au menu, des portraits de gens formidables, beaucoup de culture et de gastronomie. Alors ça reste assez discret, il faut bien le dire, dans notre environnement médiatique. Quand vous trouvez sur Internet des dizaines de sites, le journal des bonnes nouvelles, Positive Air, l'Optimisme ou encore Peps News, avec des contenus plus ou moins bien faits.
Vous êtes venu faire le plein de bonnes nouvelles, et bien sans plus attendre, on attaque cette vidéo avec une histoire très inspirante. Handicapé à 76%, il termine un marathon en intégralité. Parmi les coureurs se trouvait Alex Roca Campillo, 32 ans, à l'âge de 6 mois, il a été victime d'une encéphalite herpétique virale. Depuis, il souffre de paralysie cérébrale et toute la partie gauche de son corps est immobilisée.
Effectivement, c'est un peu caricatural ça. L'autre tendance, Corinne, c'est le journalisme dit de solution.
Oui, car les citoyens ne sont pas seulement en attente de distraction, mais aussi d'informations constructives, qu'on montre le verre à moitié plein, ce qui marche plutôt que ce qui rate. C'est l'idée du média en ligne vert, de l'écologie donc, avec un ton surtout pas anxiogène. On y parle par exemple de la tortue verte qui n'est plus en danger d'extinction. Et on y donne aussi des conseils.
Vous faites partie des 12 millions de Français qui courent régulièrement ? A priori, rien de plus écolo que la course à pied. Sauf que 24 millions de baskets, ça commence à peser. Alors on vous aide à choisir des chaussures plus écolo pour alléger votre impact. Première étape, regardez les matières qu'elles contiennent. Aujourd'hui, les chaussures de running sont composées à 67% de produits pétrochimiques, du nylon ou du polyester par exemple. Privilégiez des baskets qui intègrent des matières recyclées ou biosourcées à base de maïs, de bois ou même de champignons.
Extrait d'une vidéo très complète, vous saurez tout Eric pour votre prochaine paire de baskets.
Comment
proposer, pardon, je continue.
Allons-y, on a encore un peu de temps.
Proposer des moyens d'agir, c'est en fait un des remèdes au pessimisme ambiant, d'après un sondage au Doxa pour ICI, le nouveau nom de France Bleu. Les Français disent trouver des raisons d'espérer dans l'actualité locale. Et je vous conseille de jeter un œil sur la carte ICI, ça marche, on est en plein dans le thème de l'émission, alimentée par les 44 stations de Radio France. Et pour terminer, ces informations porteuses d'espoir peuvent-elles résister à l'avalanche de catastrophes dont nous vous parlons ici même tous les jours? Eh bien la réponse est oui. Prenez Carnet de campagne sur France Inter, ça fait bientôt 20 ans que ça dure.
Michel Busquet, bonjour.
Oui, bonjour.
Je suis très content de vous avoir en ligne pour l'ouverture de cette première édition des carnets de campagne. Vous êtes chapelain de Notre-Dame des cyclistes et vous êtes père aussi de l'Abattu.
Je suis prêtre sur la paroisse de Peyrorade, mais je réside à l'Abattu, en fait.
Et grâce à vous, nous allons bénir cette émission.
Oui, ah, mais très bien.
Pour sa première.
Notre-Dame des cyclistes vous protège cette longue route que vous entreprenez maintenant, là.
Oui. Alors la bénédiction a bien marché, c'était Philippe Bertrand le 4 septembre 2006. Depuis 3 ans, Dorothée Barba a repris le flambeau. On en est aujourd'hui à plus de 4000 émissions.
Et avec Dorothée Barba, tous les jours, entre midi et demi et midi 45 sur Inter. Comment naît une bonne idée ? Juliette Brun, il y a aussi dans votre livre la bio-inspiration, et je remercie Corinne Audouin. La bio-inspiration, c'est quand la nature est inspirante pour donner des bonnes idées. Ça se décline comment, ça ?
C'est souvent une inspiration qui vient par des talents d'observateur, des gens qui vont regarder la nature et se laisser surprendre par ses fonctionnements. Mmh. Un exemple qui est très connu, c'est l'invention du velcro, des bandes scratch de nos baskets. C'est un ingénieur suisse qui se baladait souvent en forêt avec son chien, qui a remarqué qu'il y avait des petites graines qui s'accrochaient sur les poils de son chien. Et ces graines, elles pouvaient aussi facilement s'en retirer. Il a regardé au microscope comment étaient constituées ces graines, et il a remarqué de minuscules crochets flexibles, et il a eu l'idée de faire du coup
la
deux bandes
bande velcro.
Deux bandes avec des fibres et une bande avec des petits crochets flexibles qui s'enlèvent très facilement.
Un dernier mot, Juliette Brun, pour aborder le thème d'un de vos derniers livres, l'art subtil du nudge. Il faut expliquer ce qu'est le nudge en français, c'est le coup de pouce, le coup de coude. Ce sont des outils qui modifient positivement nos comportements en quelques secondes, s'il vous plaît.
Oui, un nudge, c'est une petite incitation douce au changement qui pousse les gens à faire de meilleurs choix, mais sans les obliger. Par exemple, si on met des fruits à hauteur des yeux dans une cantine, ça va aider les gens à choisir des fruits en dessert plutôt que des gâteaux.
Et dans le métro de Stockholm, les escaliers ont été repeints en touches de piano pour inciter les usagers à délaisser les escalators et donc favoriser un peu plus l'activité physique. Un grand merci, Juliette Brun. Le nudge, donc, présenté parfois comme un couteau suisse pour les politiques publiques, même si je crois que leur efficacité à long terme n'est pas véritablement établie. Et je renvoie à votre livre, Juliette Brun, l'art subtil du nudge, paru chez Diateino. Merci et bon début de soirée. Une semaine en France, à la technique ce soir, Élise Christophe, Florian Durimini et Julien Dumont à suivre le multiplex des stations du réseau ICI. Bienvenue sur Inter, 18h51. Ballade of Lucy Jordan, Maria's Faithful, c'était en 1979.
France Inter, le 18-20. Éric Delvaux.
L'actualité en région à présent, l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Azur, ICI Poitou, ICI Besançon, Fabien Nourel, Vincent Hulin et Marie-Coralie Fournier. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Près de Nice, Fabien Fourel, dans une petite commune, voilà une bien mystérieuse croix qui a fait son apparition.
Oui, une croix de 150 kilos installée il y a quelques jours en haut de ce qu'on appelle ici le Baou de Saint-Janet, un sommet surplombant la Côte d'Azur. Cette croix chrétienne a été montée clandestinement par un groupe religieux. Certains membres se revendiquent de la Populaire Sud, les supporters ultra du club de l'OGC Nice. Et sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit des hommes vêtus de noir filmés en train d'amener la croix sur fond de chant religieux. Problème Eric, cette croix n'a rien à faire là. C'est la loi de la séparation de l'Église et de l'État de 1905 qui le dit. Aucun emblème religieux dans un lieu public et en plus le secteur du Baou est classé zone Natura 2000.
Et coup de théâtre Fabien, puisque cette croix a été retrouvée sciée cette semaine.
Et là encore Eric, on ne sait pas qui est monté au sommet du Baou pour s'en prendre à la croix, la scier littéralement aux pieds. Ce que l'on sait, c'est que le groupe en question promet d'installer une nouvelle croix. Une cagnotte en ligne a été lancée et recueille ce soir plus de 3000 euros. Les forces de l'ordre prennent cela très au sérieux puisqu'une enquête pour savoir qui est derrière tout ça a été ouverte.
C'était près de Nice et nous partons à Poitiers, Vincent Hulin. Les tenues usées des pompiers, eh bien, elles seront désormais recyclées avec en plus une nouvelle vocation.
Oui, elles ont une durée de vie d'environ 12 ans, pas plus, dans le Poitou comme ailleurs en France. Auparavant, elles étaient tout simplement jetées, car les filières de recyclage sont peu nombreuses. Mais depuis la rentrée de septembre, elles trouvent une nouvelle vie. Ces tenues usagées seront revalorisées, par exemple, en housse de protection pour les bouteilles d'oxygène. Des protections utilisées par des soldats du feu du centre de formation des sapeurs-pompiers de la Vienne. Alors oui, elles présentent certains trous ou ne sont plus conformes pour être utilisées en intervention, mais elles sont donc ainsi recyclées.
Et c'est même devenu, Vincent, un projet pédagogique pour des lycéens de Poitiers.
Oui, ce sont les élèves du lycée du Dolmen, précisément des élèves de seconde et des étudiants en BTS métier de la mode. Chaque mercredi, ils se rassemblent pendant 2 heures pour ce projet. Toutes les anciennes tenues reçues sont analysées en détail pour étudier les matériaux. Il a fallu d'ailleurs les décortiquer pour connaître les différentes matières et comment les réutiliser. Les premiers prototypes ont été réalisés en récupérant les fermetures éclair, les boutons pression, les bas de pantalon. Un projet utile qui a mobilisé plusieurs professeurs, exemple avec les mathématiques pour la construction des différents volumes et prendre les différentes cotes. Eric, des élèves tout feu tout flamme, car très heureux de voir que leur travail sert à quelque chose.
Ça y est, c'est monté au cerveau le tout feu tout flamme, je l'ai. Merci bien Vincent Hulin. Nous partons à Besançon, Marie-Coralie Fournier. Que ce soit le Comté, le Morbier, le Bleu de Gex ou bien le Mont d'Or, les fromages AOP du massif du Jura vont-ils abandonner le lait cru ?
En tout cas, ils lancent une étude pour évaluer l'impact d'un éventuel passage au lait thermisé. La différence, c'est que le lait cru est chauffé à 40 degrés maximum, alors que le lait thermisé monte à 56 degrés, de quoi supprimer des bactéries comme Escherichia coli, par exemple. Avec le réchauffement climatique, les fromagers font face à des nouveaux pathogènes et donc à des nouveaux risques pour la santé, des risques aussi de rappel de produits et retrait de fromage des magasins. Les filières veulent donc anticiper, se préparer au lieu de changer de technologie dans l'urgence pour arrêter le lait cru. Elles veulent connaître l'impact pour l'économie des ateliers, l'impact aussi sur le goût du fromage. En chauffant plus le lait, le fromage perd en typicité, sa texture change également. Les fromagers sont donc partagés entre limiter les risques alimentaires et perdre de leur terroir. 3 pistes sont possibles pour l'avenir: garder le lait cru, passer au lait thermisé ou une solution mixte. Certains ateliers travailleraient le lait cru, d'autres le lait thermisé. C'est le cas déjà pour d'autres fromages dans d'autres régions comme le Saint-Nectaire ou l'Osso Irati. Pour les représentants des 4 filières fromagères AOP de Franche-Comté, cette étude est aussi un appel au soutien de l'État pour que le lait cru ne soit pas sur le devant de la scène uniquement en cas de contamination.
Eh bien, merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec le concours des radio du réseau ICI. À suivre, le journal de 19h de François Geffrier sur France Inter, et puis à 19h20, ce sera le téléphone sonne. À propos ce soir des COP environnementales, celle du Brésil est en train de tirer à sa fin dans des conditions chaotiques. Après l'espoir déçu de la COP 21, c'était il y a 10 ans à Paris, à quoi servent les grandes négociations internationales? J'attends vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000, ou bien via l'appli Radio France. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.